Bonjour Catherine Chabert.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes une psychanalyste reconnue, importante par vos activités, vos nombreux écrits, ouvrages et articles, votre enseignement et vos interventions toujours marquantes. Peut-être pourriez-vous, avant que nous commencions cet entretien, et si vous le souhaitez, donner quelques repères sur votre parcours analytique et évoquer les psychanalystes qui, mis à part Freud évidemment, vous ont le plus marqué de leur influence.
Moi, j'ai à l'origine une formation littéraire et philosophique, mais qui, sur laquelle je ne me suis pas longtemps attardée, puisque je me suis engagée dans des études de psycho assez tôt. Et je suis arrivée à Paris avec l'idée. J'avais lu un livre sur le psychodrame de Didier Anzieux, donc j'avais l'idée de faire du psychodrame, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, c'est vraiment par hasard, au hasard de la géographie, que je me suis retrouvée à Nanterre, à la fac de Nanterre, pour faire ma maîtrise de psycho. Et là, j'ai rencontré Didier Anzieux, Daniel Villechet, François Gontraire, Roger Doré, qui étaient tous mes enseignants à une époque où on était très très peu en psychologie clinique et en psychopathologie. Donc là, ça a été une espèce de révélation pour moi, parce que précédemment, je n'étais pas orientée du tout vers la clinique. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai poursuivi mes études. Là, j'ai rencontré, à l'Institut de Psycho, j'ai rencontré Nina Roche de Traubenberg, qui enseignait les épreuves projectives. Je trouvais à 21 ans que arrêter mes études, c'était quand même trop tôt. Donc j'ai voulu faire une thèse de troisième cycle. J'ai été voir Daniel Villechet. J'ai fait ma thèse. C'est comme ça que je me suis engagée dans l'enseignement. C'est-à-dire, j'ai eu une bourse pour faire ma thèse. Et ensuite, j'ai fait toute ma carrière d'enseignant-chercheur à Paris 5, enfin à Paris Descartes. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé enseigner. Et je trouve qu'il y a quelque chose là dans la transmission qui compte énormément pour moi. Et puis, évidemment, assez rapidement, d'abord j'ai travaillé d'emblée à l'hôpital comme psychologue clinicienne, à la Salpêtrière, puis à l'Institut Mutualiste Montsouris où j'ai travaillé très très longtemps, d'abord en tant que psychodramatiste, puis en tant qu'analyste, enfin les deux d'ailleurs, hein. Et où, effectivement, j'ai rencontré une clinique assez particulière, qui est celle de l'adolescence et de la jeunesse, enfin des jeunes adultes. Et puis, c'est une analyse personnelle, je suis rentrée à l'APF. Et là, effectivement, j'ai rencontré des gens très importants pour moi. Alors, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que j'ai fait des rencontres comme ça, assez formidables. Oui. J'ai rencontré aussi René Caes, à qui je dois beaucoup. Il a été mon enseignant à Aix-en-Provence et c'est par son intermédiaire que j'ai connu les travaux d'Anzieux et que je suis venue à Paris. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens très généreux, très doués, très intelligents, bien sûr. Mais ça m'a beaucoup aidée finalement parce que ça, j'avais des appuis. Et ça compte beaucoup pour moi. C'est quelque chose que j'ai repris un peu à mon compte. C'est une forme d'héritage, la transmission. Voilà. Et j'ai donc évidemment à l'APF j'ai rencontré les grands psychanalystes de la génération qui m'a précédée, Laplanche, Pontalis, beaucoup Pontalis qui a beaucoup compté pour moi, et d'autres aussi, Fédida, voilà. Et là, j'ai fait mon parcours analytique très tranquillement, beaucoup plus tranquillement que... Enfin, beaucoup moins rapidement que mon parcours universitaire. Et puis, voilà, depuis quelques années, j'ai quitté l'université. Je me consacre davantage à mon travail d'analyste et à mon travail de formateur. Et là, je retrouve quelque chose, justement, qui compte, encore une fois, beaucoup pour moi. C'est la formation. Puis bon, j'ai plus de temps pour écrire... Évidemment, les livres en particulier, moi les articles. Et voilà comment je travaille aujourd'hui. dans une grande, grande continuité avec le passé, je pense, vraiment.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Sans doute, vous ne serez pas étonné que les questions que je voudrais aborder avec vous dans cet entretien concernent le féminin. Femme, féminin, féminité, nous pourrons préciser leur signification au cours de nos échanges. Vous avez publié en 2003 un ouvrage important à ce sujet, Féminin mélancolique, qui contient, je crois, l'essentiel de vos conceptions et de vos références concernant le féminin, sujet auquel s'articulent de nombreux concepts métapsychologiques qu'il éclaire et en étend la portée. Poursuivant votre réflexion, vous avez publié en 2011 « L'amour de la différence », en 2015 « La jeune fille et le psychanalyste » et en 2017 « Maintenant, il faut se quitter ». C'est essentiellement à partir de ces différents ouvrages que je voudrais aborder avec vous ce sujet central du féminin qui touche aussi bien à l'identité du sujet, au moi et à l'objet, à la différence des sexes, à la bisexualité et au transfert dans la cure. Transfert contre transfert. Commençons par les fantasmes originaires qui sont souvent le point de départ de vos élaborations. Séduction, scène primitive, castration assignent tous au sujet, à l'enfant, la position passive, du moins dans le modèle névrotique de leur construction.
Alors à propos d'originaire et d'origine, je dois dire que j'ai écrit Féminin, enfin j'ai publié Féminin mélancolique en 2003, mais c'est vraiment dans la suite du CPLF consacré aux enjeux de la passivité, et pour lequel bon, ça a été pour moi un très grand honneur. Hein. J'étais une jeune analyste à l'époque, et j'ai été sollicitée par vos collègues de la SPP, Gérard Bell et Georges Pragier, pour effectivement être rapporteur à ce congrès. Et c'est effectivement à partir de ce congrès, du rapport, des discussions dont il a fait l'objet, et en particulier j'ai eu comme discutant André Green, dont j'ai suivi le séminaire pendant de nombreuses années, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup, enfin, qui a compté aussi dans mon parcours. Un peu à côté de l'APF, mais c'était formidable justement d'avoir différents points de vue. Et Laurence Kahn, qui était aussi ma discutante à ce congrès. Et donc dans la suite, effectivement, je me suis engagée dans le féminin mélancolique. Alors, en ce qui concerne les fantasmes originaires, il y a ce petit texte de La Planche et Pontalis qui est assez formidable. Fantasme originaire, origine des fantasmes, enfin bon, il faudra qu'on retrouve le titre exact pour que je sois davantage précise. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, et ce qui a fait l'objet en quelque sorte, un des axes de mon travail sur le féminin mélancolique, c'est ce que j'ai appelé la version mélancolique du fantasme de séduction. Et je pense que au sein des fantasmes originaires, le fantasme de séduction occupe une place centrale, chez Freud aussi d'ailleurs, ça a été un des premiers qui a été mis en évidence, auquel les autres sont susceptibles de se raccorder, mais que ça occupe une place vraiment centrale. Et ça, on aura peut-être l'occasion de le développer, parce que je pense que c'est inscrit aussi dans le transfert, la question de la séduction. Donc, il se trouve que je ne peux pas penser, écrire, sans une articulation serrée entre la clinique et la métapsychologie. Pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de la clinique que les choses se mettent en place pour moi, en référence à des textes théorique, et en particulier la métapsychologie freudienne à laquelle je suis extrêmement attachée, peut-être trop, je sais pas. Donc Ce qui m'avait quand même beaucoup frappé, je le dis beaucoup dans ce livre, enfin, le noyau en quelque sorte de cette affaire, c'est que je rencontrais énormément à l'Institut Mutualisme Montsouris des jeunes filles qui souffraient de symptomatologie, je préfère dire compulsive plutôt que addictive, même si c'est le mot qui vient directement. C'est-à-dire que il y avait effectivement, il y a toujours, je crois, beaucoup de jeunes filles qui sont hospitalisées ou qui sont traitées et qui présentent de graves troubles des conduites alimentaires, mais aussi il y a eu une multiplication des pathologies compulsives, des scarifications et aussi des tentatives de suicide à répétition. Voilà. Moi, j'étais analyste à l'IMM. Je faisais partie de deux groupes de psychodrame et je rencontrais un certain nombre de ces jeunes patientes en psychothérapie. Et ce qui m'est apparu, c'est que chez elles, il y avait une sorte d'émergence quasi directe de la séduction qui n'était pas refoulée, comme ça peut apparaître dans l'hystérie ou bon... On entend bien les premiers écrits de Freud qui arrachaient l'aveu de ces jeunes hystériques. Donc là, ça apparaissait assez vite, cette question de la séduction, très directement dans un contexte incestuel. Et je n'ai pas trouvé tout de suite, hein, il a fallu quand même que je réfléchisse, je les ai beaucoup écoutés. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas moi qui les ai trouvés, c'est elles qui me l'ont dit. C'est-à-dire que... ce qui apparaissait, c'est une forme de culpabilité absolument dévastatrice, parce que, contrairement au scénario classique de la séduction freudien, enfin, la version hystérique, où c'est le père ou son substitut qui est l'agent de séduction, qui est celui qui est actif, qui est le coupable, qui préserve l'innocence de la fille, là, c'est le contraire. C'est la fille qui est coupable de séduire le père. Et pour dire les choses un peu rapidement, elle se punit, quoi. Elle punit ce par quoi elle pêche, c'est-à-dire son corps. Alors, bon, peut-être qu'on reviendra à cet élément majeur. Mais effectivement, vous me posez la question des fantasmes originaires. Les autres sont là. C'est-à-dire que... évidemment, ce que j'ai pu retrouver aussi, mais j'en ai moins parlé, c'est comme ça, mais ce que j'ai pu retrouver aussi, c'est une espèce de proximité des fantasmes de scènes primitives à teneur hautement excitante. Et ça aussi, ça a beaucoup compté pour moi dans les constructions de l'Œdipe au niveau des différentes organisations psychopathologiques, on va dire. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc de ce côté-là, il y a une proximité effectivement de la scène primitive et des fantasmes de scène primitive, encore une fois, qui entraîne une excitation débordante et qui ont un effet de séduction du fait de l'excitation que ça engendre, quoi. Bon, alors la question de la castration est complètement... bascule complètement du côté de la punition et d'une punition qui meurtrit le corps, quoi, et la psyché, parce qu'elles se font du mal, vraiment. Et puis bon, moins travailler sur la question du fantôme de retour au ventre maternel, je suis en général plus prudente en ce qui concerne toutes ces représentations de l'archaïque, dont je pense qu'elles sont présentes, mais travesties finalement, même transformées. Et susceptibles d'être retrouvées par la voie de la régression. Qui déforme aussi. Enfin bon, ça aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
On revient un peu à la question de la passivité, donc. Cette passivité qui est quand même centrale pour vous, en tout cas. Alors, c'est une tendance qui est souvent attribuée aux femmes, et vous rappelez régulièrement qu'elle est commune aux deux sexes et que l'opposition actif-passif ne doit pas être confondue avec l'opposition masculin-féminin.
Alors, à propos de la passivité, justement au moment où j'ai travaillé, où j'ai écrit mon rapport pour le CPALF, j'ai été chercher toutes les occurrences chez Freud de cette notion. Et j'ai trouvé une définition originaire, on va dire, à laquelle je suis extrêmement attachée, de la passivité, c'est-à-dire... Freud définit la passivité comme la capacité à pouvoir être excité par l'autre. On retrouve la question de la pulsionnalité, de l'excitation, et au fond, il y a quelque chose au niveau justement du fantasme de la question de la séduction qui est là. Hein. Et donc une acceptation, alors c'est très important parce que c'est accepter l'action de l'autre sur moi aussi. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance de l'autre, de sa différence en tous les cas, de ce qui vient en faire un objet différent de moi. Quoi. Et ce qui m'est apparu important, justement, c'est que dans la mélancolie, cette passivité est absolument insupportable. Parce que évidemment, la capacité à supporter l'action de l'autre, c'est aussi la capacité à accepter d'être modifié par l'autre, mais d'être aussi modifié par des événements et évidemment par la chose sexuelle, par la sexualité, mais aussi par tout ce qui relève de la perte et du deuil. Donc, alors, votre question concernant masculin, féminin, évidemment, elle m'importe, parce que là aussi, j'ai été chercher Freud, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses conceptions de la féminité. Vraiment pas, toujours. Mais il y a aussi là un noyau originaire sur lequel je trouve très intéressant de travailler. Je pense que effectivement, il y a ce qui apparaît au niveau du comportement, où on trouve toutes les identifications, aujourd'hui on dirait genrées, et où ça passe effectivement par le comportement. Et puis il y a ce qui se passe au plan psychique. Et là, en référence à la bisexualité, en chacun d'entre nous, il y a du féminin et du masculin. Donc peut-être en effet que la passivité appartient au féminin, mais au féminin chez les deux sexes, et pas seulement chez les femmes, même si... Alors, je pense qu'il y a eu des intuitions freudiennes formidables. Par exemple, quand il parle du masochisme féminin, il parle de ça. Il parle pas du masochisme des femmes. Il parle de cet ancrage-là, mais il dit bien que ce masochisme féminin, on le retrouve chez les hommes, par identification à une position féminine passive.
Vous dites, l'assimilation du sexe féminin et de la castration entraîne une dérive commune directement dictée par les théories sexuelles infantiles, c'est-à-dire l'équivalence affirmée entre passivité et castration, par référence à la féminité. Donc finalement, comme si effectivement, cette castration, elle était liée au féminin. Mais vous dites dérive commune. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par là, sinon une façon commune de penser? Et est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre que l'angoisse de castration, considérée comme spécifiquement féminine, relève d'une série fantasmatique différente?
Alors, je pense que la question des images qui sont le produit de représentations inconscientes, on va dire des choses comme ça, je pense qu'en effet, enfin, je ne récuse absolument pas l'idée que la castration, en tous les cas pour le petit garçon, soit liée à ce que Freud évoque concernant la confrontation à l'absence de pénis de la petite fille, etc. etc. Je pense aussi que chez les filles, là je suis Freud, hein, la revendication phallique existe et que on trouve effectivement ce complexe de castration chez les filles associé à l'absence de pénis. Là, c'est hyper classique, donc je ne vais pas le développer, hein, je veux dire. Et je veux dire que c'est aussi une constante de la clinique. Je veux dire que ce point de vue freudien, il est très régulièrement confirmé, conforté. Mais, et c'est là que la question de la différence intervient, j'aurais tendance à penser que il y a différentes représentations qui sont associées à la castration, à côté, ou complémentairement, je sais pas exactement comment ça se situe, la question d'ailleurs n'est pas vraiment là, qui mettent simplement en évidence cette règle selon laquelle on n'a pas tout. Et que le fantasme de la bisexualité, où on serait à la fois garçon et fille, homme et femme, etc., est évidemment battu en brèche. Il est battu en brèche par d'autres systèmes de représentation qui entraînent effectivement à la fois des identifications sexuées et des choix d'objets singuliers. Donc, la castration, ça peut être aussi ce qui constituerait l'équivalent du pire chez les femmes, pour les femmes, de ce qui est le pire pour les hommes. Bon, je vais dire les choses de façon grossière, mais voilà. C'est-à-dire que l'image la plus crue de la castration pour l'homme, c'est l'absence de pénis ou la perte du pénis.
Et c'est quand même ce qu'il représente.
Voilà, exactement. Et de ce qu'il représente, évidemment. Mais je me situe au niveau de l'image et de la plus grande crudité. La peur du petit garçon. Et c'est ce qui entraîne d'ailleurs la disparition de complexe d'Oedipe chez le garçon. Et voilà, c'est clair et net, quoi. C'est tranché, si j'ose dire. Alors, chez les filles, pour les femmes, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est la possibilité de porter des enfants, quoi. Ce dont les hommes sont privés. Enfin, en tous les cas, jusqu'ici. Parce que l'évolution de la science, on va dire, fait que justement, toute cette fantasmatique qui est nourrie quand même chez les hommes, le fait, enfin, qui existe aussi, par exemple, au niveau des procédures de couvage, etc., ça reste quand même quelque chose de fort dont les garçons sont privés et qui peuvent constituer aussi un sentiment de privation et de castration. Avec, alors c'est là effectivement que moi j'ai introduit la question de l'enfant mort, c'est que pour les femmes, il y a effectivement la question de la castration parce qu'elles sont privées de pénis. On pourrait dire aussi que la possibilité d'avoir un enfant vient colmater en quelque sorte leur complexe de castration dans l'équivalent entre l'enfant et le pénis. D'accord. Mais je pense qu'au-delà, il y a quelque chose d'absolument spécifique qui consiste dans le fantasme et aussi dans l'expérience de porter un enfant. Et que le comble finalement de la castration pour une femme, ça apparaît dans l'impossibilité éventuelle d'avoir un enfant, mais en deçà de la réalité, ou en amont de la réalité, le fantasme de l'enfant mort hante, c'est-à-dire l'angoisse de ne pas pouvoir porter un enfant vivant. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a effectivement une problématique de castration féminine, un peu, vous voyez, dans la perspective de la bisexualité et de ce qui, du côté du féminin, pourrait apparaître comme le fantasme le plus extrême de la castration féminine. C'est-à-dire non seulement être dépourvu de pénis, mais ne pas pouvoir porter un enfant vivant ou être privé. Bon, si bien que la question de l'enfant mort, qui revient quand même beaucoup dans l'analyse, beaucoup, 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 comme fantasme, comme événement, peu importe, enfin, je veux dire, ça se traite de toute manière, ça me paraît un motif majeur de la psychanalyse, au même titre que la castration au masculin, c'est-à-dire le fait d'être privé de pénis.
Ne pas être privé de pénis et ne pas être privé d'enfant.
Exactement.
Parce c'est... que là, on retrouve.
Exactement. Et il y a effectivement quelque chose... Enfin, ce qui se maintient de la bisexualité tout au long de la vie, qui est susceptible par voie des identifications d'être satisfaite. Je veux dire, on peut être... Enfin, je veux dire... Bon, là, je vais m'engager dans des choses trop compliquées, donc je vais laisser tomber. Mais il y a quand même quelque chose, justement, dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, enfin, entre un homme et une femme, bon, qui fait que, par la voie des identifications croisées, il y a quelque chose de ces désirs masculins et féminins qui sont relativement satisfaits. On va dire ça.
Alors, concernant le féminin et le masculin, vous préférez parler de différence des sexes plutôt que de bisexualité. Le mot bisexualité, renvoyant à la confusion sujet-objet, et correspondrait plutôt, selon vous, à une identification primaire, à la mère toute puissante et indifférenciée du moi des premiers temps de la vie.
Alors j'ai un peu bougé par rapport à ce que j'ai écrit à ce moment-là. En vérité, aujourd'hui, je dirais que je ne peux pas séparer bisexualité et différence des sexes. Parce que je pense que, effectivement, si on reprend les choses au niveau des premières identifications, on peut penser en effet qu'il peut y avoir une identification à une figure maternelle toute puissante, sans distinction clair entre ce qui relève du masculin et du féminin. Mais ce qui me paraît important, c'est que aujourd'hui, j'aurais tendance à penser qu'il y a de toute manière, dès les débuts de la vie, une inscription de la différence des sexes et que c'est difficile de parler de bisexualité sans parler de différence des sexes. Que simplement, ce couple... comment dire, se distribue dans des configurations et dans des modalités différentes, évidemment au cours de l'enfance, et puis effectivement selon les individus. Alors, je pense que en ce qui concerne le fantasme de la bisexualité, ça, il conserve effectivement quelque chose de l'ordre de la toute-puissance et surtout du narcissisme. Parce qu'au fond, la différence des sexes et l'inscription et la reconnaissance de la différence des sexes, ça oblige quand même à penser qu'on n'a pas tous, ce que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas être à la fois homme et femme, on peut pas... Et donc, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une blessure narcissique qui consiste à dire, ben voilà, je suis un homme ou je suis une femme, mais je ne suis pas à la fois l'un et l'autre, quoi. Donc... C'est de ce côté-là, me semble-t-il, qu'on peut trouver une souffrance au niveau des identifications très importante, justement parce qu'il y a cette nécessité de renoncer à la toute-puissance apportée par la bisexualité, sans compter effectivement ce qu'elle assure du côté des choix d'objets. C'est-à-dire si on est... garçon et fille, homme et femme. Je pense à un film formidable là-dessus. Je peux parler de cinéma ? Ouais.
Bien sûr.
Le film de François Ozon qui s'appelle Ma meilleure amie. Ça dit les choses formidablement bien, quoi. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme qui reste très attaché à son identité masculine. Qui est fasciné par le comment on devient une femme, qui se travestit, on peut dire les choses comme ça, même si le mot ne convient pas nécessairement, je veux dire le terme de travesti, mais cette affaire se crée, apparaît, se développe, se chronicise chez lui dans des conditions très particulières. C'est-à-dire qu'il est fou amoureux d'une femme, vous avez vu le film ?
Non, c'est pas bien.
Il est fou amoureux d'une femme, c'est une histoire d'amour absolument formidable, il l'épouse, ils ont un enfant, tout va très bien, elle meurt. Et c'est dans un premier temps pour pour consoler ce bébé qui n'arrête pas de pleurer, que, comme par hasard, il trouve une lingerie de sa femme, il enveloppe le bébé avec, et peu à peu, c'est comme ça que les choses se passent. Donc c'est très intéressant de montrer comment dans le film apparaît le recours à la bisexualité pour lutter, dénier la perte, le deuil, et en même temps occuper toutes les places. Enfin, bon, la suite du film est moins convaincante, mais donc je trouve que j'ai trouvé cette histoire absolument super pour montrer de quelle manière la question de la sexualité, de l'identification sexuelle, est croisée avec celle de la perte et du renoncement, quoi.
Freud disait « Chacun des genres peut avoir plus de l'un que de l'autre. » Et c'est bien là toute la question. Quoi de plus et quoi de moins ? Faut-il se résoudre à l'inconnaissable de cette différence, comme le dit Freud lui-même ? Freud écrit pourtant « Le masochisme est donc authentiquement féminin. » Et il poursuit « Si vous rencontrez le masochisme comme si souvent chez les hommes, que vous reste-t-il donc à faire sinon de dire que ces hommes montrent des traits féminins très nets ?» Et ne pourrait-on pas inverser cette affirmation et dire « Le masochisme étant authentiquement masculin, si vous rencontrez le masochisme comme souvent chez les femmes, que vous reste-t-il donc à faire sinon de dire que ces femmes montrent des traits masculins très nets ?» Je crois que vous apportez la solution à cette impasse. En déplaçant cette interrogation sur l'étude des identifications et du rôle de l'Œdipe, l'identification du fils au père et de la fille à la mère, disons, avec le poids culturel des représentations sociales du masculin et du féminin.
Alors, moi je suis pour la différence du sexe. Je trouve que ça vaut la peine. Quel que soit, d'ailleurs, par ailleurs, les choix amoureux qu'on peut faire, je veux dire, la question ne se pose pas pour moi en ces termes. Mais je pense quand même, enfin, pour moi, la différence des sexes, c'est le paradigme de la différence.
C'est le paradigme de
voilà,
la différence.
Voilà, c'est comme ça que les choses s'inscrivent, quoi. Dès le début. Même si les représentations ne sont pas nécessairement claires, même si elles continuent d'être confuses, etc. Donc, je ne vois pas... Alors, ce que ça veut dire pour moi, la différence des sexes, c'est que l'un ne se confond pas avec l'autre. Et que c'est ça qui m'intéresse. C'est... Bon, il y a des points communs, bien évidemment, du fait même de la bisexualité, enfin, des origines bisexuelles de la sexualité. Mais il y a des différences, et je crois que comme telles, elles sont... Pour moi, en tous les cas, elles sont significatives et elles sont extrêmement importantes à respecter. Donc, ça ne me dérange pas, la position de Freud ne me dérange pas quand il déclare le masochisme authentiquement féminin. C'est parce que je pense qu'il y a effectivement toute la dimension culturelle, historique, qui est extrêmement forte à cet égard et bien difficile à... bien difficile à transformer, de toute manière. Mais c'est là comme ça, et ça renvoie quand même aux positions sexuelles féminines, et à la question justement... Parce que, bien sûr, on peut dire que la passivité et l'activité, on n'a pas à s'en tenir aux manifestations comportementales, enfin, à ce qui apparaît quand même. Mais ce sont quand même les conduites sont aussi des produits de l'inconscient et de la psyché. Donc c'est comme les images, ce sont des images, mais en même temps elles sont produites par tout le fonctionnement psychique, etc. Donc c'est important aussi de s'y attacher. Alors en ce qui concerne les différentes formes de masochisme, moi je reste très attachée aux trois formes de Freud. Bon, le masochisme érogène et le masochisme féminin, et j'ai beaucoup travaillé sur la question du masochisme moral, dans lequel justement la question de l'identification sexuelle n'est pas si claire que ça, et où c'est le narcissisme qui l'emporte, hein, puisque la différence pour Freud, c'est que dans le masochisme féminin, on souffre pour l'autre, donc il y a une dimension libidinale, il y a un investissement de l'objet qui est toujours présent, alors que dans le masochisme moral, c'est souffrir pour souffrir. Et qu'à ce moment-là, on est vraiment à la crête, à certains moments, de la bascule dans la mélancolie. Donc, je dois dire que c'est peut-être... Enfin, l'opposition, en ce qui concerne la question de l'identité sexuelle du masochisme, ce qui m'intéresse plus que féminin ou masculin, c'est... sexuel ou sexuel narcissique, enfin on va dire les choses comme ça, vous voyez, parce que je pense en effet que, alors, je pense que, enfin comment dire, moi j'aurais tendance à penser que on peut pas se défaire de l'impact culturel des identifications au plan inconscient, c'est impossible.
C'est évident.
Voilà. Donc là, pour l'instant, en tous les cas, le masochisme reste très attaché à la position sexuelle féminine, mais bien entendu, et la clinique le montre. Enfin, je veux dire, si on reprend la question du fantasme de l'enfant battu ou de la réalité d'être battu. Problème délicat en effet, évidemment les femmes battues sont extrêmement nombreuses, mais il y a aussi des hommes qui le sont
moins,
beaucoup moins,
quand beaucoup, même, moins. Beaucoup moins, donc il y a quand même quelque chose,
donc il y a quand même quelque chose, c'est ça que je veux dire, c'est à dire que moi j'aurais tendance à penser que quand même, cette insistance freudienne sur le caractère féminin du masochisme, dans l'intrication du culturel et de la chose inconsciente, ça demeure comme tel. Mais en même temps, bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des formes très négatives du masochisme, mais il ne faut pas non plus oublier la dimension éventuellement trophique de cette position. C'est-à-dire que là, le point de vue économique intervient de façon absolument majeure. C'est-à-dire que dans les formes les plus graves du masochisme féminin, on en arrive à des situations absolument catastrophiques. Je veux dire, pas seulement... je parle pas seulement au niveau du traitement sexuel, je parle aussi de ce qui se passe du traitement psychique sexuel, mais il y a aussi une forme de masochisme minimal... qui est présent chez tout un chacun et qui est constitutif d'une possibilité d'identification aussi. Et en particulier, parce qu'il ne faut pas oublier quand même dans le point de vue freudien qu'en ce qui concerne le masochisme féminin, il y a la question du masochisme au féminin, mais il y a aussi l'identification à l'enfant méchant battu. Je pense qu'il y a un ancrage du masochisme du côté de l'enfant qu'on ne doit pas oublier.
Et l'enfant battu aimé.
Évidemment. L'enfant battu, puni, aimé, enfin, mais le noyau du masochisme, il est à la fois au niveau de... C'est de l'infantile, évidemment, mais aussi attaché à la figure de l'enfant. Et ça, parfois confondu avec le féminin, les deux sont éventuellement confondus, en tous les cas, pas nécessairement confondus, mais en tous les cas condensés, mais cette dimension-là me paraît absolument essentielle, et c'est peut-être ce noyau-là qui est commun aux hommes et aux femmes.
Peut-être, oui. En effet.
Et où on retrouve effectivement la castration. Et là, vous voyez quand même toute la question de la... Enfin, pour moi, en tous les cas, cette scène de l'enfant battu, ce fantasme de l'enfant battu, sombre de la réalité de ce qui est susceptible d'arriver aussi et d'abord aux enfants, ça reste quand même un produit, une réalité psychique très fondamentale. C'est-à-dire pas seulement au niveau du fonctionnement psychique individuel, mais aussi au niveau du collectif.
Même du collectif ?
Oui, je veux dire de l'enfant, de l'enfant battu, maltraité, etc. Parce qu'il y a quand même quelque chose aussi dans le sadisme, hein, et dans la violence collective, quelque chose qui est mobilisé malgré tout. Qui explique d'ailleurs, enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, mais la barbarie, la sauvagerie, les enfants massacrés, ça part de là quand même aussi, hein, niveau. Le massacre des innocents, c'est quand même quelque chose qui constitue un patrimoine fantasmatique gigantesque. Alors, j'attache, c'est banal pour. Enfin, j'attache à la question des identifications une place essentielle, non seulement dans la construction du fonctionnement psychique, mais dans son exercice en quelque sorte. Alors, bon, c'est effectivement un concept fondamental de la psychanalyse, mais pas seulement, hein, c'est un concept qu'on partage aussi avec d'autres sciences humaines. Enfin, la définition qui me sert d'ancrage en ce qui concerne les identifications, c'est celle que Freud donne en 1923. C'est-à-dire, le moi se construit par la sédimentation des identifications aux objets perdus et abandonnés. Donc, je trouve ça extrêmement important. Pour moi, c'est ça l'ancrage, vraiment la racine de l'identification. Et effectivement, à défaut d'avoir, on s'identifie, on est celui ou celle, on s'identifie à cet objet qu'on a perdu ou partiellement perdu, etc. Alors, ça me paraît tout à fait important, d'autant que là, on retrouve, vous voyez, peut-être que je travaille trop sur les détails, mais il y a identification. Il y a sédimentation, évidemment, et il y a identification aux objets perdus ou abandonnés. Et là, pour moi, il y a quelque chose, je vais venir à la question de l'Oedipe, il y a quelque chose de très important, parce que perdre ou abandonner, ce n'est pas la même chose. Perdre, c'est caricatural, hein, voilà. Perdre, ça se situe effectivement du côté de la passivité, de la reconnaissance, effectivement, de ce qui a disparu, et le modèle freudien, c'est celui du deuil, où on accepte au décours du travail du deuil, où la mort de l'objet aimé, sa disparition est admise, et on en est affecté, meurtri, défait. Mais vous voyez, on accepte cette action de l'événement sur
de la
mort,
perte.
De la perte, voilà. Abandonner, c'est ce qui se passe plutôt dans la mélancolie, c'est-à-dire c'est une position active. C'est-à-dire, c'est moi qui décide, qui suis à l'origine de la destruction. C'est ça, hein, le modèle mélancolique. Hein, je veux dire, même si on s'attache aux symptômes, à la symptomatologie psychiatrique, enfin aux signes psychiatriques de la mélancolie, être coupable de ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça relève quand même d'une position de toute puissance considérable, quoi. Et donc, il y a cette espèce de renversement où il y a l'identification à une position active. Et vous voyez cet ancrage entre passivité et activité, c'est ce qui vient nourrir, même si en effet, on ne peut pas systématiquement attacher le masculin à l'actif et le féminin au passif, les modèles masculins et féminins viennent s'emparer de ça. C'est peut-être un hasard si on considère que L'angoisse la plus vive des femmes, c'est celle de perdre l'amour de la part de l'objet. Alors que ce serait l'angoisse de perdre... Enfin, l'angoisse de castration chez le garçon. Vous voyez ? Il y a... Alors, bon, les deux fonctionnent chez les deux, c'est-à-dire
mais
que...
Les deux fonctionnent chez les deux.
Exactement, parce que... Il faut revenir effectivement à la conception freudienne de l'Œdipe, à ses différentes modalités, enfin, aux Œdipes croisés, aux identifications croisées, où effectivement se retrouve la bisexualité par identification à l'un et à l'autre sexe, avec un peu plus de l'un que de l'autre. Donc au fond, ce qui me paraît important dans la question des identifications, c'est que ça vient traiter aussi, et en même temps, la question de la perte et du renoncement. Et que si effectivement la capacité de renoncer est pas admise, si c'est impossible, s'il y a une déflagration narcissique dans la nécessité justement de renoncer, alors à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et alors, ce qui me paraît le complément d'objet absolu, les identifications, c'est les choix d'objet. Évidemment, dans la grande scène oedipienne, ça se comprend. Du fait des identifications à l'un plus que de l'autre, il y a un choix d'objet amoureux à l'un plus qu'à l'autre. Voilà, donc choix hétérosexuel, choix homosexuel. Mais de toute façon, là encore, c'est le modèle de la perte qui est le... Enfin, celui de la perte et pas de l'abandon. Je suis claire,
oui.
qui est le plus productif. C'est-à-dire que de la même façon que dans la troisième phase du deuil, celle qui différencie justement le deuil et la mélancolie, eh bien, l'objet perdu est désinvesti détail par détail, et il y a une énergie pulsionnelle qui est libre
et qui est
susceptible de justement se déplacer et de s'attacher à un nouvel objet. Même si, dit Freud, l'homme ne répond pas facilement à ces signes d'appel, enfin c'est pas sa phrase, mais c'est quand même d'une justesse considérable, hein, qui montre à quel point l'attachement aux objets originaires peut être fort, quoi. Bon, en tous les cas, dans les meilleurs des cas, c'est quand même ce qui se passe lorsqu'il y a un dégagement œdipien, quelles qu'en soient les modalités, même s'il y a une répétition, à savoir qu'effectivement, il peut y avoir un renoncement à l'objet d'amour œdipien, un désinvestissement, et ça, le travail de l'adolescence est formidable à cet égard quand il peut se faire, et puis, c'est cette énergie pulsionnelle et fantasmatique est susceptible de s'engager dans des choix amoureux, plus ou moins hésitants, plus ou moins satisfaisants, mais bon, avec cette répétition quand même très classique où les premières amours sont absolument calquées sur les amours oedipiennes. Je veux dire, les échanges des adolescents vont absolument dans ce sens. Il m'aime, j'aime pas, il aime... Enfin, il m'aime, j'aime quelqu'un qui m'aime pas, qui aime quelqu'un d'autre, et ainsi de suite.
La séparation peut s'opérer sans qu'il y ait un préjudice grave.
Sans préjudice grave, mais sans pour autant... je vous ai interrompu. Sans préjudice grave, mais sans pour autant minimiser la peine
au
double sens du terme, c'est-à-dire le travail psychique nécessaire et la manière dont on peut être affecté par cette nécessité.
Mais non, c'est par opposition à la réaction mélancolique. Si vous
voulez. Absolument.
C'est ça. Oui. Donc, dans un cas, quand je dis pas de préjudice grave, ça veut dire, quelle que soit la perte et la douleur de la perte et tout ce qu'elle peut faire ressentir, elle va quand même évoluer vers une capacité de réinvestissement d'un nouvel objet.
Oui.
Et ça, par opposition à la mélancolie, ou au contraire, là, c'est la culpabilité, la souffrance qui vont s'installer et qui vont justement empêcher cette renaissance.
Oui. Et ça, c'est ce que, je reviens encore à Freud, c'est ce que Freud montre remarquablement à propos de la névrose obsessionnelle et de la mélancolie. C'est-à-dire que même si les mouvements haineux sont extrêmement vifs dans la névrose obsessionnelle, l'objet survit psychiquement. C'est-à-dire l'investissement libidinal de l'objet est suffisamment fort pour surmonter les attaques haineuses. Au fond, c'est un peu ce qui se passe aussi au décours de l'adolescence, hein, que l'objet survive aux attaques, avec à ce moment-là la possibilité de s'en dégager et de s'en séparer, enfin, devient effectif, quoi.
Alors, toujours à propos de l'Œdipe, qu'il soit direct ou inversé, vous considérez qu'il se structure autant autour de l'angoisse de castration que de la perte, de la peur de perdre l'amour de l'objet. À partir de là et de la trace de cette mère toute puissante et indifférenciée d'un premier temps, vous ne souscrivez pas à l'affirmation de Freud concernant la faiblesse du surmoi féminin, et vous le décrivez au contraire comme féroce et implacable. C'est une divergence importante avec Freud.
Alors, bon, évidemment, moi, je, comme tous les analystes, je m'intéresse beaucoup à l'Œdipe, d'autant plus que, bon, ça, j'amorce comme ça la question du surmoi, je pense que les formes œdipiennes sont variables. Et que ce qui me paraît discutable, c'est de poser l'Œdipe dans ses formes les plus élaborées et les plus structurantes. C'est-à-dire celles qui, pour faire encore une fois des références à la psychopathologie, celles qui sont associées à la névrose, voilà. C'est-à-dire où effectivement on retrouve toutes les composantes de l'Œdipe, et dans les différentes composantes de l'Œdipe, il n'y a pas seulement l'amour pour l'un, la rivalité pour l'autre et vice-versa, mais il y a aussi la reconnaissance de l'interdit et il y a la capacité de renoncer, ce qui s'ancre sur la question de la perte. C'est là que... Alors, moi je pense qu'il y a des formes œdipiennes qui sont très variées, depuis effectivement la grande organisation structurante jusqu'à l'Œdipe psychotique, où justement il n'y a plus de distinction, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de renoncement, et où on est dans l'inceste et le meurtre. Mais c'est toujours l'Œdipe, c'est toujours Œdipe. Avec, effectivement, dans ses composantes, un traitement de ses composantes qui n'est pas le même qu'ailleurs. Voilà. Donc ça, j'y tiens énormément. Et c'est probablement parce que il se trouve que j'ai travaillé effectivement avec des patients qui, pour lesquels il y avait des souffrances psychiques extrêmement graves, extrêmement sévères. Encore que je pense aussi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut souffrir énormément en étant névrosé, quoi. Voilà, c'est pas assez... Il n'y a pas de classification. Du côté de la souffrance psychique, on ne peut pas classer. Bon, alors, en ce qui concerne justement la question du surmoi, c'est que pour pouvoir parler du surmoi, il faut justement s'attacher à la question du déclin de l'Œdipe. Avec, vous savez, ces formules, ces traductions qui sont si diverses, disparition, destruction, déclin. Et il y a une chose qui me paraît très importante en ce qui concerne justement le déclin de l'Œdipe. Le texte de Freud sur le déclin de l'Œdipe, il est court, mais à mon avis, il est décisif. C'est-à-dire, la sortie de l'Œdipe, elle ne se fait pas du tout de la même façon pour les garçons et pour les filles. Donc, bon, vous connaissez la chose, chez les garçons, c'est très clair. C'est comme quand les dents de lait tombent, belle métaphore. Hein. Alors que les filles resteraient justement toujours très attachées à ces figures œdipiennes et que, au fond, pour elles, l'Œdipe serait jamais terminé. Peut-être au moment où elles auraient un premier fils aimé, dit Freud, qui est assez joli, je trouve. Mais bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette question de la différence entre les garçons et les filles, mais c'est aussi que, et là... c'est là que je commence à être en discussion, si vous voulez, avec Freud, et qu'au fond, comme il présente les choses, la sortie de l'Œdipe idéale, c'est celle des garçons. Et que, de façon curieuse, quand il décrit, si on s'attache aux sorties de l'Œdipe qui sont moins parfaites, on va dire, moins dégageantes, pour utiliser le terme de Lagache, à ce moment-là, c'est quand même le modèle féminin qui revient. Donc là encore, il y a quelque chose de fort de ce côté-là. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'Œdipe, la sortie de l'Œdipe de la fille, eh ben, c'est celle qui sert de modèle en quelque sorte au trouble de la fin de l'Œdipe. Alors, c'est justement parce que pour Freud, le garçon se dégage clairement de ses attachements œdipiens, que effectivement la dimension, enfin le fonctionnement de son surmoi est opérant et clair. Donc lui sait effectivement faire la différence entre ce qui est permis, pas permis, il renonce et il s'identifie à voilà. Alors ce qu'il dit pour les femmes, c'est que au fond c'est logique, c'est très très logique, hein. C'est-à-dire que si effectivement les femmes continuent d'être très attachées à leurs objets d'amour œdipiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose du côté de l'interdit qui ne marche pas complètement. Ça veut dire ça. Et s'il y a quelque chose du côté de l'interdit qui ne fonctionne pas très bien, ça veut dire que le surmoi est faible. Donc, au fond, le surmoi des femmes représenterait là encore, pour les deux sexes, le surmoi faible, enfin... Voilà,
c'est ce que dit Freud.
Voilà. Alors, moi, j'ai quand même été... Alors, j'ai commencé à discuter ça, évidemment. Pas d'accord non plus, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, avec le point de vue freudien concernant les capacités sublimatoires des femmes, du fait de la faiblesse de leur surmoi aussi. Mais bon, moi, je... Comment dire je suis pas engagée, enfin, je pense pas être engagée dans un combat. Je lui en veux pas, moi, à Freud. Je trouve formidable qu'il ait pu se tromper. Voilà, quoi, c'est ça. Heureusement, il y a des choses qui marchent pas. D'ailleurs, il l'a reconnu très régulièrement. C'est ça que je trouve formidable, justement, dans les théories freudiennes, c'est que on avance par essai et erreur, on choisit un modèle. Ça marche pas tout à fait, donc on va en trouver un autre, et on revient, sans jamais vraiment tout abandonner. Donc c'est ça que je trouve passionnant, et moi j'aime travailler comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai que je reviens souvent sur les mêmes cures quand j'écris ou quand je travaille, c'est vrai que je reviens à des textes que, régulièrement, que je lis et que je relis, parce que j'y trouve d'autres choses, et que les lectures sont comme des interprétations multiples, quoi. Voilà, donc je suis pas d'accord avec la question de la faiblesse du surmoi des femmes, et en particulier parce que j'étais cliniquement, peut-être parce que c'est personnel aussi, hein, je fais l'expérience d'un surmoi particulièrement exigeant, mais peut-être que c'est un surmoi masculin, dirait Freud, ce qui m'agacerait beaucoup. Mais pourquoi pas, après tout ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais alors. Ce qui m'a beaucoup frappée, moi, dans toujours cette clinique, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, de jeunes femmes dans mon travail d'analyste, vraiment beaucoup. Et notamment ces jeunes femmes dont je parlais tout à l'heure, quoi. Je trouvais qu'au contraire, les exigences sur moi qui étaient excessives parce que. Très embolie par des formations idéales, quoi, très, très embolisée par des formations idéales, hautement nourries par le narcissisme, et que ces exigences surmoïques étaient telles que l'action du surmoi était cruelle et tyrannique. Alors, c'est en ce sens que je suis pas d'accord avec l'idée que... Alors, je dirais aujourd'hui que je pense pas du tout que ce détour-là, Freud l'aurait pris. Mais je me dis aujourd'hui qu'après tout, ce surmoi-là n'est pas un surmoi civilisé. Ce surmoi cruel, tyrannique, autodestructeur, comme il apparaît dans l'acharnement autodestructeur de la mélancolie, vous voyez ? Donc, voilà. Si on se situe du côté économique, effectivement, ce sont les instances surmoïques chez les femmes, mais on peut les trouver aussi. Enfin, là aussi, j'ai parlé du surmoi au féminin. Pas féminin, mais au féminin, qu'on pouvait trouver chez les hommes et chez les femmes. Alors, voilà où j'en suis. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, ce qui continue de m'intéresser, c'est, je veux dire, c'est pas d'être pris dans une dimension genrée, sexy, etc., mais de conserver, à la différence des sexes, sa dimension productive, aussi sur le plan métapsychologique.
Vous intitulez le dernier chapitre de « Maintenant, il faut se quitter » « L'amour maniaque » ou « Aimer à la folie ». Ce chapitre conclusif ne vient-il pas, à quelques années de distance, compléter votre conception de la mélancolie, la manie étant une des issues possibles de la mélancolie?
Alors, la question est juste, ça vient compliquer, mais c'est ça qui m'intéresse. Alors, je dois dire que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on lit et on relit des textes et on y découvre chaque fois des choses différentes. Et aussi, j'ai évoqué le fait que moi, j'aime bien être sollicitée. Alors, là, j'ai été sollicitée par la revue française de psychanalyse qui prépare un numéro sur la manie, sur quoi j'avais jamais travaillé. Et j'ai donc décidé de m'y mettre. Et j'ai fait un constat quand même remarquable, à savoir que j'ai lu un nombre de fois inimaginable Deuil et Mélancolie, mais la dernière partie sur la manie, j'avais comme laissé en suspens, on va dire. Je n'avais pas travaillé dessus. Bien entendu, je connaissais le texte, parce que, ou bien j'oubliais. Bon. Donc, évidemment, ça m'a énormément intéressée de reprendre toute cette partie-là et d'y réfléchir, notamment à partir de situations cliniques auxquelles j'étais régulièrement confrontée. Et je me suis rendu compte que là aussi, il y avait une configuration complémentaire, complètement associée à la mélancolie, à savoir la manie. Ça part déjà des propos de Freud, ça part aussi de la clinique. Hein, je veux dire, aujourd'hui on parle de troubles bipolaires, mais la manie-mélancolie, c'est toujours été un mariage inévitable au niveau de la clinique, enfin au niveau de ce qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive. Et ça m'a évidemment beaucoup intéressée parce que, effectivement, d'une part, ça vient montrer un soubassement possible de la mélancolie, enfin son avers. Et puis, quelque chose qui, à partir du moment où on adhère à la position freudienne selon laquelle la manie est une issue de la mélancolie, ça vient montrer quelque chose justement du côté d'une victoire peut-être excessive, mais quand même d'une victoire au moins transitoire, de la libido sur les pulsions de mort. Là aussi, je dis les choses un petit peu.
Et vous dites aimer. Vous dites l'amour maniaque ou aimer à la folie.
Exactement. Et en même temps, aimer à la folie, ça n'est pas nécessairement fou. Je veux dire que, ça, comme toujours, hein, on trouve des formes canoniques en quelque sorte, on pourrait dire de l'amour maniaque. Pas tout à fait l'érotomanie, hein, parce que la mélancolie dans l'érotomanie est d'emblée présente, mais il y a ces formes comme ça d'élation amoureuse, mais en même temps, l'état amoureux, c'est ce que dit Freud aussi, hein, l'état amoureux est susceptible de provoquer, enfin, d'être rapporté à quelque chose de cet amour maniaque, c'est-à-dire de cette période de la rencontre, de l'idéalisation, voilà, cet élan, ce mouvement formidable qui est lié à la rencontre amoureuse et qui est susceptible de se reproduire, mais à quoi mais qui peut pas se maintenir envers et contre tout, qu'on peut pas être tout le temps à ce niveau-là, même si on peut essayer de le recréer régulièrement. Alors, du côté de l'amour maniaque, d'autres formes cliniques me sont apparues autour de la passion, quoi. La question de la passion amoureuse, ça m'intéresse beaucoup. Et il y a cette dimension-là. Mais vous entendez bien que dans cette forme de l'amour maniaque, le narcissisme est exacerbé à un point incroyable, quoi. Incroyable. Et le risque, c'est la déception, et l'enjeu, c'est de surmonter la déception. Voilà.
Et rebelote.
Et rebelote, vous dites.